France Musique. Musicopolis. Le Padre Martini, un professeur bien sympathique. Oui, bien sympathique, mais surtout tout à fait savant, au point que les élèves affluent de toutes parts pour avoir l'honneur et l'avantage de travailler avec lui. Un siècle plus tard, un historien nous dit encore « Il n'est pas de musicologue qui ne proclame le Padre Martini la plus brillante figure de la science musicale au milieu de ses contemporains ». Lorsqu'on commence à lire la biographie du Padre Martini, on est surtout étonné devant l'étendue de son activité. Non seulement il enseignait, mais il était également chercheur, théoricien et maître de chapelle, c'est-à-dire compositeur et chef d'orchestre. Et puis, le Padre Martini était aussi un érudit, passionné des textes théoriques de son époque et des époques anciennes, et un collectionneur de livres, de partitions et de portraits. Avant de revenir sur le détail des activités du Padre Martini, je voudrais vous faire faire la connaissance de l'homme. Je vous ai dit qu'il était bien sympathique, je commencerai par vous donner des preuves de ce que j'avance par le témoignage d'un de ses contemporains. Chez Charles Burney, l'historien et musicologue anglais, que nous allons trouver un témoignage de première main sur le Padre Martini. En 1770, en effet, alors qu'il commence à investiguer pour écrire une histoire de la musique, Burney effectue un grand voyage en France et en Italie dans le but de rencontrer les principaux compositeurs en activité et de décrire la vie musicale de ces pays. Son livre « L'état présent de la musique en France et en Italie » a été publié conséquemment et il a obtenu un grand succès. Burney y fait le récit de sa visite au Padre Martini à Bologne. Padre Martini, écrit Charles Burney, est un franciscain et maestro di cappella de l'église de cet ordre à Bologne. Il s'est employé depuis de nombreuses années à écrire une histoire de la musique dont le premier volume a déjà été publié. Nous nous sommes entendus mutuellement pour engager une correspondance cordiale, avec une promesse de confiance et d'assistance. Mais on ne peut que déplorer que le bon père Martini soit très avancé en âge et que ce soit un homme d'une très faible constitution, avec une très mauvaise toux, les jambes gonflées et un aspect maladif. Il est impossible, en lisant son livre, écrit Burney à propos du Padre Martini, de se faire une idée du caractère de ce bon et brave homme. Il n'a encore traité que la partie la plus aride et la plus absconse de son sujet, dans laquelle il a pu montrer l'étendue et la profondeur de ses lectures et de son savoir, mais pas afficher l'excellence de son caractère, qui non seulement inspire le respect, mais aussi respire la gentillesse. Il joint la douceur, la philanthropie et une bonne humeur naturelle à l'innocence de la vie et à la simplicité de ses manières. Je n'ai jamais aimé autant un homme après une si courte rencontre. Et après quelques heures de conversation avec lui, je ne sentais pas plus de réserve entre nous que je n'aurais eu avec un vieil ami ou un frère bien-aimé. Impossible d'éprouver une confiance plus cordiale, spécialement entre deux personnes qui poursuivent le même but. À savoir écrire une histoire de la musique. J'imagine qu'après avoir entendu ce que dit Charles Burney du père Martini, vous êtes tout à fait convaincu de la gentillesse et des qualités humaines du bonhomme. Mais bien sûr, le fait qu'il soit si sympathique ne suffit pas à expliquer qu'il ait eu autant de succès comme professeur. On connaît des professeurs très méchants qui ont eu une excellente réputation. Alors, parcourons un peu la biographie du padre. « Giovanni Battista Martini est né à Bologne en 1706. Si vous ne visualisez pas bien Bologne, elle se situe au-dessus du mollet de la botte de l'Italie, au milieu de la jambe. Une situation très centrale, au sud de Milan et Venise, au nord de Florence, Rome et Naples. Bologne est très musicale. Deuxième ville des États pontificaux après Rome, elle regorge d'églises, plus de 150 à l'époque de la naissance de Martini, et de communautés religieuses qui entretiennent des chapelles musicales importantes. C'est aussi une ville étudiante, avec une université qui remonte à la fin du XIe siècle et qui est reconnue à travers toute l'Europe. La première chaire de musique remonte à 1450 et depuis lors, des noms illustres sont liés à l'enseignement musical à Bologne. C'est une ville où l'on discute beaucoup entre les tenants de la tradition et ceux de l'expérimentation. On y discute au sein d'académies renommées, notamment l'Académie philharmonique. Comme souvent dans les familles de musiciens, le jeune Giovanni Battista Martini a commencé son apprentissage de la musique avec son père Antonio, violoniste et violoncelliste. Il a ensuite pris des leçons avec les grands professeurs bolognais de l'époque, notamment en chant avec le castrat Pistocchi et en composition avec Perti. À l'âge de 15 ans, l'adolescent manifeste le désir de devenir moine et il entre au couvent franciscain de Lugo, en Romagne, à 50 km de Bologne. Après un an ou deux au couvent de Lugo, Giovanni Battista Martini revient à Bologne. Il tient l'orgue à San Francesco, l'église de son ordre. Il devient maître de chapelle à 19 ans, toujours à San Francesco, un poste qu'il va occuper pendant plus de 50 ans, jusque dans les dernières années de sa vie. Il vit dans le couvent attaché à l'église, il reçoit les ordres mineurs avant d'être ordonné prêtre à 23 ans. Peut-être à cause de sa pauvre santé, Martini ne va quasiment pas voyager de toute sa vie et rester attaché à San Francesco de Bologne. Il est allé quelques fois à Rome. À 53 ans, il a visité Florence, Sienne et Pise. C'est tout. On lui a proposé des postes au Vatican et à Padoue, mais il a préféré rester à Bologne. Thank you. Pour acquérir ses immenses connaissances dans le domaine de la théorie et de l'histoire de la musique, le Padre Martini a profité sans doute des collections de partitions et de textes sur la musique qu'on pouvait déjà trouver à Bologne. Il en a recopié beaucoup et il a certainement, ce faisant, assimilé énormément de musique, notamment celle de Palestrina, qu'il connaît sur le bout des doigts. Le Padre Martini, en raison de ses connaissances, de sa gentillesse et sans doute de ses méthodes pédagogiques, qui devaient bien être pour quelque chose dans sa réputation de professeur quand même, le Padre Martini donc a attiré une foule d'élèves. On ne sait pas trop du reste combien ont vraiment étudié avec lui. L'avoir eu comme professeur était tellement valorisant que beaucoup s'en vantaient sans que ce soit toujours vrai. Au moins 70 compositeurs assez connus, dont Jean-Chrétien Bach, le plus jeune fils de Jean-Sébastien, ou André Modeste Cretry, ou Niccolò Iommelli, ont compté parmi ses élèves avérés. On ne sait pas trop non plus quelle était la durée moyenne des études, ni la fréquence des leçons. Pour Jean-Chrétien Bach, par exemple, il a fait quelques séjours à Bologne, alors qu'il était employé à Milan, et il a continué à soumettre ses partitions à Martini pendant environ 2 ans. Pendant ce temps, il a profité de la science du contrepoint que professait le maître, et il a composé surtout de la musique religieuse. Les études de Jean-Chrétien Bach avec Martini se sont arrêtées au bout d'environ 2 ans de leçons assez sporadiques. Mais d'autres compositeurs ont travaillé avec lui encore moins longtemps. Le jeune Mozart, par exemple, 14 ans au moment de sa première visite à Bologne en mars 1770. Première visite au cours de laquelle il rencontre Martini un peu par hasard et sans aucune intention de travailler avec lui. Le padre, quant à lui, est surtout impressionné par les capacités d'improvisation du garçon. L'été suivant, les Mozart, Wolfgang et son père repassent par Bologne. Mais là encore, aucune leçon en vue. En revanche, lorsque Martini propose que Wolfgang tente l'examen d'admission à l'Académie philharmonique, les Mozart, père et fils, décident de prolonger leur séjour. En effet, puisqu'il faut écrire un morceau qui respecte les règles du contrepoint néo-palestrinien, il faut bien les apprendre. Résultat, au bout de ces quelques jours de leçons avec le padre, Mozart écrit, en à peine 1 heure, l'antienne qui doit lui ouvrir les portes de l'académie. Avec ce court morceau-exercice de contrepoint proposé au jeune Mozart pour l'admission à l'Académie philharmonique de Bologne, le garçon obtient une note moyenne. Il n'a pas respecté toutes les règles, mais qui lui permet néanmoins d'intégrer cette vénérable institution. Encore une ligne importante sur sa carte de visite. Voilà qui valait bien la peine de passer quelques jours en compagnie du Padre Martini. Même si les spécialistes reconnaissent aujourd'hui que ce court séjour n'a pas apporté grand-chose à Mozart pour sa pratique du contrepoint. Ce qui n'empêche qu'il a peut-être admiré les quelques 17 000 volumes de la bibliothèque du professeur. Si l'on en croit Charles Burney, hormis son immense collection de livres imprimés qui lui a coûté plus de 1000 sequins, le père Martini est en possession de manuscrits originaux que l'argent ne pourrait acheter et de copies de manuscrits de grandes bibliothèques, du Vatican, de l'Ambrosienne, de celles de Florence, de Pise et d'ailleurs, pour lesquelles il a une permission du pape. Il a une pièce remplie de ces manuscrits. Deux autres pièces sont réservées aux livres et une quatrième à la musique pratique, avec là encore une quantité prodigieuse de manuscrits. À la mort du Padre Martini, c'est l'un de ses élèves, son préféré, Stanislao Mattei, qui a conservé sa bibliothèque et tous les portraits de compositeurs qu'il avait réunis. Mattei a fait en sorte que la collection ne soit pas dispersée ou le moins possible. C'est aujourd'hui le fonds le plus important de la bibliothèque musicale du Musée international de Bologne. Gnare Domine, extrait du Te Deum en ré majeur de Giovanni Battista Padre Martini, l'ensemble Cantissimo, l'Arpa Festante, dirigé par Marcus Hutz. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Mercher pour le mixage, Élise Kravetz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.